juste essayer de m'y retrouver dans, parce que je ne reconnais pas la... Je reconnais pas mes diapos là, attendez. Ok, ça marche. En tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. C'est un plaisir. Ça fait il y a quelques années, la dernière fois que j'étais venu prêcher ici, et ça fait plaisir de vous retrouver. Et puis de vous apporter les salutations de votre église sœur de l'autre côté de la Seine, l'église de la rue de Sèvres. Voilà, comme vous, nous continuons dans ces circonstances très particulières que nous vivons, et nous pouvons constater la fidélité du Seigneur, même si tout n'a pas été simple, comme j'imagine ici non plus. La capacité de notre salle de culte fait que nous devons avoir 3 cultes chaque dimanche, donc c'est un peu un marathon. Donc cet après-midi, j'aurai le privilège d'assister à l'un de nos cultes à 16h chez nous. Mais voilà, le Seigneur, encore une fois, a montré sa fidélité de bien des manières et nous lui sommes très reconnaissants. Nous allons ce matin lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, les versets 1 à 7. Le texte sera projeté à l'écran. Voilà, sans plus attendre, je vais commencer la lecture de ce texte. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Il y a quelques semaines, nous avons célébré Pâques. À l'occasion de Pâques, une connaissance de mon épouse et de moi-même, c'est pas quelqu'un dont nous sommes proches, mais une connaissance, une jeune femme qui professait autrefois la foi évangélique, mais qui s'en est malheureusement éloignée, a mis le commentaire suivant sur sa page Facebook. Je la cite. « J'aime beaucoup mieux Pâques, depuis que j'ai compris qu'il n'est pas nécessaire de croire littéralement dans la résurrection physique de qui que ce soit. Le message de Pâques, dit-elle, c'est avant tout que l'enseignement de Jésus est ressuscité par le biais d'une communauté de disciples. » Alors on pourrait, évidemment cela nous a attristés de lire cela, on pourrait parler longuement de tous les problèmes que pose une telle affirmation, et en particulier le fait que si la communauté de disciples a pu voir le jour, c'est précisément parce que les premiers disciples avaient été témoins ensemble de la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de message de Pâques sans résurrection corporelle, historique de Jésus. Il n'y a pas d'église sans un Seigneur ressuscité et vivant. Et cela nous amène au texte que nous allons examiner aujourd'hui. Nous sommes donc dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, qui a écrit ce livre, est à la fin de sa vie, très vraisemblablement. Il est en exil à l'île de Patmos, dans la mer Égée, qui correspond fait partie de la Grèce aujourd'hui. Et il y reçoit la vision de Jésus, le ressuscité, dans sa gloire. Jésus se présente à lui, et on le voit au verset 17 du chapitre 1, comme, je cite, « Le premier et le dernier, le vivant ». « J'étais mort, dit Jésus, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le ton est donné. On ne peut pas imaginer une autorité plus totale, l'autorité sur le monde, sur la vie, sur la mort, sur l'histoire. Or, après cette révélation inaugurale à l'apôtre Jean, le Christ ressuscité va s'adresser, au chapitre 2 et 3 de ce livre, à sept églises, toutes situées dans la région de l'Asie mineure qui correspond à la Turquie actuelle, à l'ouest de la Turquie actuelle. Les églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Alors c'était des églises bien réelles, on en a d'ailleurs des traces ailleurs dans le Nouveau Testament, et pas uniquement des églises symboliques comme on peut l'entendre ici ou là. Des églises bien réelles avec leurs qualités et leurs défauts. Et ce qui est frappant et touchant, c'est de voir que Jésus s'adresse à chacune de ces églises très spécifiquement, en soulignant les défis qui sont propres à chacune, mais avec aussi les encouragements pour chacune ou presque, et implicitement des encouragements pour chacune de ces églises. Mais il y a aussi dans ces lettres un message qui a vocation d'être entendu par tous, pas seulement pour les églises qui ont reçu ces paroles en tout premier lieu, mais par tous et y compris jusqu'à nous aujourd'hui. En effet, à la fin de chacune des lettres, on entend cette exhortation qui revient comme un refrain, « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ». Donc chaque message s'adresse, au-delà des églises directement visées, au peuple de Jésus-Christ par-delà les temps et les frontières. Alors ce message, il nous est délivré dans un registre particulier, qu'on appelle le registre apocalyptique, avec des images fortes et frappantes, évocatrices, mais en même temps qui nous échappent et qui nous surprennent. Et dans un sens, c'est le but de ces images, qu'elles nous bousculent et qu'on ait du mal à pleinement les visualiser et les comprendre. Dieu explose nos catégories conceptuelles. Il n'entre pas bien confortablement dans nos attentes, dans notre façon de penser et de voir. C'est nous qui sommes créés à son image et pas l'inverse. Et en ayant cela à l'esprit, le but de ces images, et on peut dire ça, je pense, de l'Apocalypse d'un point de vue général, n'est pas forcément de nous conduire à les analyser dans les plus petits détails, mais plutôt, comme l'apôtre Jean lui-même, de nous conduire à l'adoration, de nous prosterner devant notre Seigneur, de nous réjouir de sa gloire, de sa puissance, et d'y prendre courage. Et donc nous nous penchons sur la première de ces sept lettres, la lettre à l'église d'Éphèse. Et je vous soumets que cette lettre, elle nous place face au risque que peut courir une église de faire plein de bonnes choses, mais de passer à côté de l'essentiel. Faire plein de bonnes choses, mais de passer à côté de l'essentiel. Alors je précise que j'ai donné ce message dans mon église, donc je n'ai pas choisi ce texte en me disant « Tiens, ça sera bien pour l'église du tabernacle ». Ce n'était pas du tout cette idée. Toutes les églises doivent entendre ce message. Faire plein de bonnes choses, mais passer à côté de l'essentiel. Nous allons voir cela en trois temps. On va voir que l'église d'Éphèse, à bien des égards, est une église fidèle et solide. Et pourtant, elle est en danger de mort. Et puis nous verrons ce qu'on pourrait appeler l'ordonnance du divin médecin. D'abord donc une église fidèle et solide. Pendant l'essentiel de ma scolarité, j'étais un élève atypique parce que j'avais dans un certain nombre de matières de bons résultats, mais je faisais un blocage sur les maths. Je ne sais pas si d'autres se reconnaissent dans cette description, sûrement pas, mais moi c'était mon cas. Et les maths, c'est quand même une matière assez importante. Et j'avais vraiment des difficultés en maths. Et du coup, mes bulletins scolaires se ressemblaient pas mal d'un trimestre à l'autre. Bien, bien, très bien. Ah, les maths, par contre, là, ça ne va pas. Et parfois, les enseignants de maths pensaient que peut-être je me fichais d'eux ou je ne sais quoi. J'aimerais pouvoir le dire, mais ce n'était pas du tout le cas. On pouvait voir le verre à moitié plein de tout ce qui allait bien, mais on pouvait aussi le voir à moitié vide et mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. La lettre du Christ ressuscité à l'église d'Éphèse ressemble un peu à un bulletin de ce type. Ça commence par des compliments au verset 1 à 3. Il y a encore un compliment au verset 6. Et entre les deux, il y a un reproche sévère au verset 4 et 5. Et dans un premier temps, nous allons voir la section compliments. Les encouragements adressé par le ressuscité à l'église d'Éphèse. Et on notera que dans sa bonté et dans sa grâce, le Seigneur Jésus a commencé et terminé par le positif et a placé le négatif au milieu. Voyons d'abord comment Christ se présente, comment il interpelle cette église. On a d'abord une interpellation au verset 1, écrit à l'ange. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Petit couac sur mes diapos, mais c'est pas grave. Et on va retrouver cette parole assez mystérieuse au début de chaque lettre. Écrit à l'ange. Écrit à l'ange. Et en lisant cela, il faut avoir à l'esprit que l'Apocalypse est une révélation. C'est ce que veut dire le mot Apocalypse, révélation. Ceux qui lisent parfois la Bible en anglais savent peut-être que l'Apocalypse en anglais, c'est revelation, révélation. Et on pourrait même dire que plus précisément encore, il est question d'un dévoilement. On dévoile ce qui était inconnu. Et par ces paroles saisissantes, Christ dévoile ici une réalité spirituelle qui est invisible pour nous. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Faut-il penser qu'il y avait vraiment un ange, qu'il y a un ange en quelque sorte préposé à chaque église ? Ou est-ce une façon de parler de l'église locale elle-même dans sa dimension spirituelle invisible ? On peut hésiter. Et je ne trancherai pas cette question. Mais en tout cas, le ressuscité nous laisse ici entrevoir, ne serait-ce qu'un instant, un tout petit aperçu d'une réalité qui nous échappe, mais qui, d'une certaine manière, doit nous faire trembler. Là où sa parole est proclamée, là où on se rassemble au nom de Jésus-Christ, eh bien, le monde invisible, le monde spirituel est engagé. Et après tout, l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, écrit que quand l'évangile est proclamé, les anges désirent y plonger leur regard. Mais revenons à l'église d'Éphèse. Qu'est-ce que Jésus lui dit ? D'abord, il se présente, voilà, on y est, dans la suite du verset 1, comme celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Un peu surprenant comme description. Comment comprendre cette image ? En fait, si on regarde un peu plus tôt, au verset 20 du chapitre 1, la réponse nous est donnée, l'interprétation de cette image nous est donnée. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc on n'a pas besoin d'essayer de deviner, ça nous est dit. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, les sept chandeliers sont les sept églises. Jésus commence donc par dire à l'église d'Éphèse qu'il est là. Il est là, au milieu, au cœur des églises locales. Il marche au milieu des sept chandeliers. Jésus est là, auprès des églises. Ce Dieu qui aime les renversements improbables, on ne cesse de le voir dans la Bible, qui aime manifester sa puissance dans la faiblesse, il a choisi d'être présent dans ces modestes communautés humaines que sont nos églises, qui étaient déjà les églises à l'époque et qu'elles sont encore aujourd'hui. Quel encouragement pour commencer. Jésus est là. Et les encouragements continuent. Versets 2 et 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Qu'est-ce qui ressort de ce portrait de l'église d'Éphèse ? D'abord, c'est sa capacité à agir, sa capacité à se mettre à l'œuvre. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Jésus souligne cela et montre que lui, le ressuscité, il est sensible à tout ce qui se fait de bon à l'église d'Éphèse. Il est parfaitement conscient, évidemment, de ce travail fait pour l'œuvre de Dieu. Cela a du prix à ses yeux. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Combien ? Imaginez si on entendait cela de la part du Seigneur lui-même à propos de notre Église. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Quel encouragement d'entendre ces paroles. Notre travail n'est pas en vain, Dieu le connaît. Et puis l'Église d'Éphèse se distingue par son discernement. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Alors, en parlant ici des méchants, Christ ne fait sans doute pas référence à d'affreux monstres dont la méchanceté était visible aux yeux de tous. Ces méchants étaient sans doute bien plus subtils et pernicieux. Et la suite nous en dit un peu plus, s'adressant toujours à l'Église. Jésus dit, fin du verset 2, « Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. » Autrement dit, l'Église d'Éphèse a su démasquer de faux enseignants. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul, pour sa part, parlait déjà ironiquement des « super apôtres », comme il les appelle, qui estimaient avoir un message plus percutant, plus attrayant que celui des véritables apôtres, témoins de Jésus, envoyés par Jésus. Ici, Jésus lui-même montre l'importance qu'il accorde à la vérité, sa vérité. Il arrive qu'on caricature Jésus, alors pas trop dans nos églises évangéliques normalement, mais on caricature parfois Jésus en disant que son message était entièrement porté vers la manière d'agir, vers les choix éthiques, mais que la doctrine ne lui importait guère. Ça, c'est venu de Paul, etc., dit-on parfois. C'est complètement faux, et en fait, il suffit de lire les évangiles dans leur ensemble pour le voir. Et ici, le ressuscité montre l'importance qu'il accorde à la vérité. Lui qui a dit par ailleurs, c'est moi qui suis le chemin, la vérité, le chemin et la vie, Jean 14, 6. Comment pourrait-on penser que la vérité soit indifférente à Jésus ? Et Jésus félicite l'Église d'Éphèse pour son attachement à la vérité. Et on retrouve cette même idée au verset 6. « Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi, tout comme je les déteste, moi aussi. » Alors, pour être honnête, on ne sait pas vraiment, voire pas du tout, qui étaient ces Nicolaïtes. Manifestement, des personnes qui s'étaient détournées de la vérité de l'Évangile. Et les chrétiens d'Éphèse avaient vu clair sur leur message et sur leurs œuvres. Mais les chrétiens d'Éphèse n'étaient pas uniquement fidèles dans leur doctrine, ils l'étaient aussi par leur manière de vivre. Et Jésus évoque au verset 3 leur persévérance, mais aussi leur souffrance à cause du nom de Jésus-Christ. Et il poursuit, « Tu ne t'es pas lassé. » Ils ont été prêts, les chrétiens d'Éphèse, à souffrir pour le nom de Jésus. C'est pas rien, c'est pas rien. Et en entendant toutes ces qualités, on a envie de dire mais tout y est. Moi, j'ai envie de dire pour mon Église, je signe. Persévérance, prêt à souffrir pour l'Évangile, capacité à se mettre en action, à faire des projets pour le Seigneur, etc., etc. On a envie de dire que tout y est. Et les encouragements du Seigneur à l'égard de l'Église d'Éphèse sont sincères. Ce n'est pas juste une façon de préparer psychologiquement le reproche qui va venir. Ce sont des encouragements sincères. Il connaît les œuvres, le courage, la persévérance, le discernement de cette Église. Que demander de plus ? Et pourtant, c'est là que les choses vont se gâter. Et ça nous amène à notre deuxième point. L'Église d'Éphèse est fidèle et solide et pourtant en danger de mort. Si on vient un petit peu à l'image du scolaire, imaginons un conseil de classe. Je ne sais pas s'il y a des enseignants, si, je sais qu'il y en a au moins une à ma gauche là, sans doute d'autres enseignants en primaire ou secondaire. Et on est donc en conseil de classe. Tout commence si bien. Ok, on en arrive à Éphèse. Ah, Éphèse, parlons d'Éphèse. Alors oui, cette église, ah, elle a du courage, elle a de la persévérance, elle a du discernement. Et patatras, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors c'est vrai que ce n'est pas le genre de reproche qu'on entend en conseil de classe en général, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et elle est dure en fait, cette parole, de la part du Seigneur. Avant d'essayer de comprendre ce à quoi fait référence le Seigneur, on note que parfois entendre une parole dure peut être profondément bénéfique. Et je ne suis sans doute pas le seul à avoir fait parfois cette expérience. Je me rappelle, il y a de nombreuses années, lorsque j'étais étudiant en théologie et un frère, qui était déjà pasteur, a fait un peu la même chose que le Seigneur dans ce passage, c'est-à-dire que, alors qu'il était question des qualités qu'il voulait voir se développer en moi, en vue d'un ministère pastoral, il a commencé et terminé par les encouragements, le positif, et au milieu, il a dit quelque chose que j'ai trouvé dur sur le moment. Une faiblesse particulière sur laquelle il a attiré mon attention. Il a dit, je pense qu'il faut que tu travailles là-dessus. Et ça a été dur à entendre. Ça a été dur à entendre. Et au début, je me disais, mais non. Alors, je n'ai pas osé lui dire, mais j'en voulais un peu. Et je me disais, mais c'est pas juste, c'est pas vrai. Je ne pense pas avoir ce défaut-là. J'en ai sans doute d'autres, mais pas celui-là. Et puis, avec le temps, je me suis dit, bon, il avait en partie raison, mais c'est quand même exagéré. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, en fait, je pense qu'il avait à peu près totalement raison sur ce point. Et je me rends compte combien j'avais besoin de l'entendre. Et c'est ainsi que le Seigneur procède avec l'Église d'Éphèse. Elle a besoin d'entendre cette parole dure pour pouvoir changer. Tu as abandonné ton premier amour. Ce par quoi, il faut vraisemblablement comprendre, tu as oublié l'amour que tu avais auparavant. Ce n'est sans doute pas l'image ici amoureuse d'un premier amour. La Bible n'est pas contre les images amoureuses, elle en utilise parfois, mais ici, vraisemblablement, c'est plutôt l'amour que tu avais auparavant et que tu as perdu. Mais de quel amour parle-t-on ? Quand la Bible parle d'amour, elle parle avant tout de l'amour qui est au cœur de la volonté de Dieu pour l'homme. Alors, elle parle de l'amour de Dieu lui-même, bien sûr, pour nous, et l'amour que nous sommes appelés à refléter. Et on a cette parole célèbre de la loi de Moïse qui est reprise dans l'évangile de Luc, de Marc et de Matthieu. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Quand Dieu appelle son peuple à aimer, à pratiquer l'amour, il y a toujours ces deux axes. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Or, les deux vont ensemble. L'amour pour Dieu rejaillit dans l'amour pour le prochain. Et tout particulièrement le frère ou la sœur dans la foi. Le prochain, c'est plus large que cela, c'est tous ceux que nous croisons, mais la Bible dit par ailleurs qu'il y a un amour tout particulier que nous sommes appelés à vivre dans le cadre des relations fraternelles. Et cet amour dont parle la Bible, on pourrait le décrire ainsi. La recherche active du bien de l'autre. La recherche active du bien de l'autre. Et il semble qu'avec le temps, à Éphèse, cet amour s'était érodé. L'Église était solidement établie, on l'a vu, l'enseignement apparemment y était fidèle, les gens étaient même prêts à souffrir pour l'Évangile. Tout cela était beau et admirable, et pourtant, il manquait quelque chose d'absolument essentiel. Un peu comme une magnifique voiture de sport qui serait en panne d'essence. Elle est belle, mais elle n'avance pas. Et la mise en garde du Seigneur est sévère. Verset 5, il déclare « Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. » Puisque le chandelier, nous l'avons vu, représente l'Église, on peut voir là une mise en garde selon laquelle le Seigneur mettra tout simplement un terme à cette Église, semble-t-il. Si elle persiste à ne pas aimer, eh bien elle ne remplit plus sa vocation. Et je nous pose cette question à titre individuel, mais à titre collectif aussi, pour votre Église comme pour la mienne. Est-ce que nous avons pris l'habitude de faire des choses pour Dieu ? Ça, on est habitué, on fait des choses pour Dieu, mais oublier d'aimer Dieu lui-même, de rechercher sa présence par la méditation de sa parole, par la prière, d'avoir soif de sa parole, d'avoir ce profond désir de la communion avec lui. Or, lorsque notre amour pour Dieu s'assèche, notre amour les uns pour les autres s'assèche aussi. Je vois souvent ce risque chez moi et dans mon église, dans notre église. Aucune église n'est dans une position où elle pourrait se dire « Ah non, l'amour chez nous, ah, on est nickel. » On a fait le tour de la question, on n'a aucun souci à se faire. Personne ne peut dire cela. Nous devons y prendre garde. Il ne s'agit pas de nier que l'amour soit présent et parfois admirablement. Mais comme l'écrit l'apôtre Paul ailleurs, que celui qui croit être debout prenne garde de peur qu'il ne tombe. La vie chrétienne ne doit jamais être vécue en mode pilote automatique, rythme de croisière, où on continue à faire ce qu'on a toujours fait, comme des automatismes. Et ça, là encore, c'est vrai à la fois au niveau individuel et au niveau communautaire. Veillons à ne pas tomber en panne de carburant, à ne pas perdre ce qui fait l'ADN de la vie chrétienne, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Le reproche de Christ à l'église d'Éphèse est sévère parce que le risque est sévère. Sans amour, écrit Paul dans le célèbre texte d'un Corinthiens 13, un chrétien ne sert à rien, sa foi n'a pas de sens. Est-ce que nous recherchons la gloire de Dieu? Est-ce que nous recherchons à refléter sa personne, à vivre de cet amour pour lui? Et est-ce que cela nous pousse à rechercher activement le bien les uns des autres? Il y a une précision essentielle à apporter ici. Cet amour que nous sommes appelés à vivre, nous n'avons pas à aller le chercher au fond de nous. Nous sommes appelés à le puiser dans l'amour de Dieu lui-même. Quand on se sait aimer, c'est naturel d'aimer en retour. Quand on se sait aimer, on est en confiance pour aimer à son tour. Or, Jean a présenté Jésus au chapitre 1, verset 5, comme « celui qui nous aime ». Celui qui nous aime, elle est connue cette parole, mais elle est tellement touchante. Il nous aime et c'est en réponse à son amour que nous allons pouvoir retrouver notre amour. Et dans son amour, justement, Jésus-Christ va donner à l'église d'Éphèse des instructions plus précises encore pour guérir de son manque d'amour. Et c'est notre troisième et dernier point, l'ordonnance du divin médecin. On va y arriver. Voilà. L'ordonnance du divin médecin. Alors, c'est un peu risqué, sans doute, de donner une image médicale dans le contexte actuel, mais bon, je vais le faire quand même. Imaginez que vous recevez un diagnostic préoccupant, une mauvaise nouvelle médicale. Mais le médecin vous présente un traitement et il ou elle est optimiste. En prenant ce traitement, la guérison sera au rendez-vous. Et je pense que c'est un peu ce que Jésus veut communiquer à l'église d'Éphèse. Le diagnostic est grave. Éphèse a abandonné son premier amour, son amour qu'elle avait auparavant. Que faire pour être à nouveau une église qui aime ? Et on pourrait résumer la prescription de Jésus par deux démarches essentielles que l'église d'Éphèse doit suivre. La repentance et l'espérance. La repentance d'abord. Au verset 5, Jésus la décrit comme un processus à l'aide de trois verbes. Souviens-toi, repens-toi et pratique. Alors ce qui est frappant, c'est que la repentance commence par la prise de conscience de l'écart entre ce qu'on a pu vivre auparavant, et ce qu'on est appelé à vivre surtout, et ce qu'on vit désormais. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, verset 5. Jésus appelle l'église d'Éphèse à se souvenir des jours où l'amour pour Dieu, pour les autres, était bien présent, ce ressourcement naturel dans la parole et la prière, ce désir vibrant de voir les autres mieux grandir dans leur relation avec Dieu, ce désir de vouloir rechercher leur bien. Il n'était certainement pas là constamment et parfaitement, bien sûr. Mais manifestement, pour ce qui est d'Éphèse, il y avait eu un déclin. Il y avait eu un déclin de cet amour. Et il semble bien que cultiver ce souvenir, non pas la nostalgie du « ah, c'était mieux avant », mais plutôt un examen lucide de ce qui s'est passé dans leur cœur depuis, cultiver ce souvenir devait aider l'église d'Éphèse à prendre conscience de la gravité de leur situation et de leur besoin d'aimer à nouveau. Où en sommes-nous dans notre amour pour Dieu, pour sa parole, pour sa volonté? Où en sommes-nous dans notre amour les uns pour les autres? Et comment avons-nous évolué dans ce domaine? C'est pas facile, hein, d'ailleurs, en ces temps de pandémie, de nous aimer activement les uns les autres. C'est pas facile. Alors que les liens sont affectés, la même convivialité, la même expression d'affection, c'est pas facile. Plus largement, cela me touche, à titre personnel, je me souviens de jours où la parole me prenait aux tripes régulièrement, où j'avais un brûlant désir de partager l'amour de Dieu. Je l'avais pas tout le temps, j'étais loin de l'avoir parfaitement, mais ces dernières années, ça a souvent été moins facile. Ce souvenir fait du bien. Et se souvenir avant tout de ce que Dieu a fait pour nous et de ce qu'il nous appelle à être. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter là. Il faut ensuite avancer, ou plutôt changer de direction. Le deuxième verbe, c'est tout simplement « repens-toi ». Donc là, on est au cœur du mouvement. « Repens-toi ». Change de pensée. Change ta façon de voir et fais demi-tour. Ne continue pas dans cette voie du dessèchement. Fais demi-tour maintenant. C'est le Seigneur qui parle et qui dit « reviens à moi ». Et troisième verbe, pratique tes premières œuvres. Peut-être peut-on comprendre cela, entre autres choses, comme nous disant que l'appétit vient parfois en mangeant, comme on dit. Peut-être qu'au début, il faudra se forcer un peu à prier pour telle ou telle personne, à se mettre à son service, à rechercher activement son bien. Mais cette trithérapie du souvenir, du demi-tour et de la pratique concrète de l'amour sont sur l'ordonnance du divin médecin. Voilà pour la repentance. Ensuite vient l'espérance. C'est ainsi que Jésus termine sa lettre à Éphèse, dans la seconde partie du verset 7, par une puissante expression d'espérance. « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » C'est un rappel à cette Église que leur travail n'est pas pour rien. Leur fidélité et leur discernement ne sont pas vains. En Jésus-Christ, l'issue de tout cela, c'est la vie, la joie et l'amour de Dieu dans toute sa force. Et c'est précisément d'ailleurs parce que nous allons vers cet amour de Dieu dont nous jouirons pleinement et parfaitement que nous devons, si besoin, apprendre à le cultiver à nouveau. La parole de Dieu nous invite régulièrement à fixer nos regards, non pas sur nos circonstances actuelles, mais sur les promesses d'un Dieu bon, puissant et qui ne change pas. Et ce n'est pas pour rien que le Christ ressuscité, après avoir placé ce reproche sévère au milieu de son propos, choisit de clore par cet encouragement. Nous ne devrions pas refermer cette lettre à Éphèse en étant découragés, mais plutôt encouragés. Au fond, pour remédier au manque d'amour qui nous guette, la recette est simple. Peut-être pas simple à vivre, mais elle est simple à comprendre. Revenir à Jésus, à sa parole, à la communion avec lui. Or, tout nous est offert par grâce. Librement, Dieu nous ouvre grand les bras. Il nous ouvre l'accès à l'arbre de vie. Souvenez-vous, Genèse chapitre 3. La désobéissance, la transgression de nos premiers parents. En se détournant du Dieu de la vie, l'homme a récolté la mort. La vie que Dieu allait lui renouveler jour après jour, constamment, parce que Dieu est un Dieu de vie et parce qu'il nous a appelés à la vie et non pas à la mort. Et bien, suite à cette révolte contre lui, Dieu a fermé l'accès à l'arbre de vie. Mais le Seigneur de l'Église, celui qui s'adresse à l'Église des faits, celui qui s'adresse à nous aujourd'hui encore, est le ressuscité, celui qui a vaincu la mort. Il a ouvert l'accès à l'arbre de vie. Et c'est lui qui nous appelle, dans la relation avec lui, à retrouver l'amour. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, quel réconfort de savoir que ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, est ressuscité, qu'il règne, qu'il est souverain sur l'histoire, sur le monde entier et souverain sur chacune de nos églises. Merci pour ces paroles, tranchantes certes, mais tellement bienfaisantes, qui nous rappellent que tu nous appelle à vivre de ton amour et à le vivre les uns avec les autres. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier pour que tu nous aides à rester fidèles, rester attachés à toi et vivre de cet amour alors que nous continuons à traverser ce temps d'épreuve. Au-delà de cette épreuve collective que nous vivons, tu connais, Père, les épreuves de chacun. Tu sais ce qui agite nos vies, nos pensées, nos actes. Merci parce que ta parole est vivante, parce qu'elle nous nourrit, parce qu'elle nous reprend, parce qu'elle nous relève. Je te prie pour cette Église, Père. Encourage-la par ta parole, fortifie-la. Bénis ses responsables et chacun de ses membres et habitués. Qu'elle soit ce chandelier, ce lieu où la bonne nouvelle dont notre monde a tant besoin est proclamée sans relâche. Et Père, je te prie pour cette Église comme pour celle que je sers. Donne-nous, Père, de ne pas perdre de vue l'amour que tu nous appelles à vivre. Aide-nous à trouver dans la communion avec toi la source de cet amour et à le vivre les uns avec les autres. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.